Bien, on va donc reprendre pour la dernière session de la journée, qui est donc consacrée cette fois plutôt, enfin, on va dire à la partie, moi je dirais réception, mais musée expérience immersive. Et on débute avec la présentation d'un projet autour donc, de la génération d'objets 3D, enfin, à partir de la tapisserie de Bayeux, et justement une proposition, enfin, une réflexion autour de l'inclusivité. Oui. Et de l'accessibilité qui peut être permise dans ce cadre.
Ok.
Et okay. Donc, je vous laisse de suite prendre la suite.
Merci. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs. C'était un plaisir d'être ici. Donc, je me présente, Abderrahim El Mota. Je suis professeur à l'Université de Cour-Normandie. Donc, je suis membre du GREG. GREG, c'est un laboratoire des sciences de données. Donc, mes thématiques de recherche, vous allez voir, sont loin des patrimoines. Hein. Donc, j'ai une partie un petit peu, entre guillemets, théorique, qui porte sur les équations aux dérivées partielles, leurs limites continues et des applications effectives. Et puis, j'ai deux domaines d'application qui sont la valorisation du patrimoine et puis l'imagerie médicale. Donc, voilà. J'ai changé un petit peu de titre, donc au lieu de parler juste de la génération de 3D pour faciliter l'accessibilité aux malvoyants, aux aveugles, je voulais un petit peu parler de l'accessibilité pour tout le monde, et ce sera une occasion aussi de présenter un objet qui est fascinant de par son histoire et par l'histoire de l'Europe du Moyen-Âge que cette œuvre qui est la tapisserie de Bayeux raconte. Donc, il y a deux parties. Donc, la première partie est sur l'accessibilité pour les chercheurs, les conservateurs et les grands publics, et concerne principalement la construction de panoramas 2D. Et la deuxième partie sur l'accessibilité pour malvoyants. Et ce travail, cette deuxième partie, il est basé, je vais la résumer, il est basé sur un travail de Marjorie Rodan, que j'ai co-encadré avec Yvan Quillot dans le cadre d'une thèse, dans le cadre d'un projet ANR-IMG, c'est-à-dire sur le guide visuel inclusif. Et il y a des travaux aussi de Mathieu Pisenberg que je n'aurai pas l'occasion de citer. Donc voilà, je commence directement par l'objectif. En fait, je vais résumer ce que je veux dire rapidement. Donc voilà. Donc, premier objectif, hein, reconstruction panorama multimodal de la tapisserie de Bayeux visant à améliorer l'accessibilité. Donc vous voyez là, ce que vous voyez ici, je vais revenir un petit peu sur l'histoire parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas les algos. Hein. Donc tapisserie de Bayeux, et donc numérisation 2D, donc vous avez, on a une série d'images multimodales, ça va de la lumière du jour à l'infrarouge, on a 6 modalités. Et ces images ont été acquises en 2007 par la fabrique du patrimoine en Normandie. Et on a des images, et ça c'est très important, vous allez voir que c'est très important pour les chercheurs, on a des images de l'envers, on dit, je ne sais pas si on dit l'envers ou le revers, qui ont été acquises, en 1982. Et donc à partir de ça, on va voir comment créer ces panoramas. Et ce panorama va nous aider à résoudre l'accessibilité en temps et en espace aux chercheurs, aux conservateurs et puis même pour le grand public. Donc, un petit peu d'histoire, hein, et voilà, c'est ça. Et donc, j'espère que... D'abord, c'est un plaisir de parler de la tapisserie de Bayeux. Et j'espère que vous aurez l'occasion de visiter ce musée qui est fermé pendant 2 ans. On en parle beaucoup. Hein. Macron, il veut l'amener à... en Angleterre, mais c'est complètement dingue. Si vous me posez la question, je vous dirai pourquoi. Donc, c'est une œuvre unique au monde. Il est resté intact depuis presque 10 siècles. Premier objet classé au titre des monuments historiques, en 1840. Et c'est un objet énorme, hein, 70 mètres de long sur 50 cm de largeur, avec 58 scènes numérisées. Et puis, c'est un objet... Je vais me lever parce que je... Je ne suis pas habitué à rester ainsi. Donc, j'ai dit, c'est fascinant. C'est un objet fascinant de par son histoire. Il a traversé les siècles alors que d'autres produits, d'autres tableaux ont disparu. Hein. Et il est fascinant de par l'histoire qu'il raconte. En fait, il raconte l'histoire de l'Europe médiévale, hein. L'histoire, comment les gens s'habillaient, comment ils mangeaient, comment ils se bagarraient, etc. Donc ça, c'est intéressant. Il intéresse tout le monde, les chercheurs et les littéraires. Il y a beaucoup de choses. Donc, alors, le contexte et l'objectif. D'abord, c'est une broderie. En fait, ce n'est pas une tapisserie, c'est une broderie qui raconte la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume de Concurrent. C'est un documentaire unique sur la manière de vivre, je l'ai dit, de combattre en Normandie, en Angleterre, au XIe siècle. Et en fait, cette histoire est simple. Il commence, en fait, c'est l'histoire de trois rois. Édouard, dit le Confesseur, Guillaume le Concurrent, et puis le roi Harold. Donc là aussi, vous voyez là, sur la première image, donc vous voyez là, Harold, dit le Confesseur, donc on le voit en train d'envoyer son gendre, qui va devenir le futur Harold, en Normandie, pour promettre le trône d'Angleterre à Guillaume. Pourquoi ? Parce que Édouard n'avait pas d'héritier. Donc, la deuxième scène, donc on voit Harold qui arrive d'Angleterre. À l'époque, les Anglais avaient une moustache et les Normands avaient une coiffure assez spéciale, vous allez voir. Et donc, on le voit venir et il lui raconte l'histoire du trône et que finalement, il sera peut-être amené à devenir roi. Ensuite, Harold, il revient en Angleterre peu de temps, Édouard est mort. Harold s'autoproclame roi d'Angleterre. Guillaume n'a pas apprécié ça. Donc, il a monté une armada et il est parti en Angleterre. Il est arrivé à Hastings. Et après une bataille de toute une journée, il a tué Harold et puis il est devenu Guillaume Ier, roi d'Angleterre. Donc voilà l'histoire. Voilà l'histoire que raconte. Et vous allez voir, finalement, cette tapisserie, il raconte toute cette histoire simple. Donc, contexte et objectif. Et en fait, sur le travail, moi, comme je vous dis, hein, je suis mathématicien appliqué, un petit peu informaticien au bord. Je m'intéresse aux applications effectives, hein, les algos. Donc, moi, j'ai commencé à travailler dans le cadre de la restructuration du musée de la tapisserie de Bayeux. Donc, c'était un projet qui est financé par l'État et la région Normandie. Il a commencé en 2013-2020. Bon, maintenant, il est fermé. Théoriquement, on doit la restaurer. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils vont l'emmener en Angleterre. Parce que finalement, le musée, il est fermé pour la restaurer et pour construire les conditions pour sa conservation. Donc, il y a un volet numérique, c'est un système, en fait. Je suis arrivé en 2007 et 2018, par erreur, hein, comme on dit, parce que je ne travaillais pas sur ça. En fait, dans le volet numérique, il y avait un système d'information géoréférencée qui visait à créer un panorama et qui visait à faire des outils d'indexation de l'ensemble de la documentation. Donc, mes collègues de l'Université de Caen, c'était des ingénieurs de l'Université de Caen qui s'occupaient du système d'information. Ils avaient des compétences, donc ils ont bien travaillé, mais ils ont oublié de réfléchir sur le panorama. Ils croyaient qu'on pouvait faire un panorama avec Photoshop, mais ils ont oublié que la tapisserie de Bayeux, c'est un objet qui n'est pas rigide, c'est énorme, et puis en plus, c'est élastique. Donc voilà. Même un infographiste, on a demandé à un infographiste de le faire, c'était difficile pour lui. Un septième, il faut, je ne sais pas, il a demandé des centaines de milliers. Et du coup, ils se sont adressés aux Grecs pour dire, est-ce que voilà, vous êtes des traiteurs d'images, est-ce que vous pouvez réfléchir? Donc voilà. Donc moi, j'ai dit, ok, oui, très bien, je peux, parce que le problème des panoramas, c'est un problème de racalage, il est classique, il n'y a rien au niveau scientifique, mais c'est très intéressant, cet objet. Pour moi, c'est intéressant, ça aurait été très intéressant si je peux aider à avancer. Donc, j'ai commencé à leur dire, OK, moi, je veux bien prendre les choses. Je vais faire une étude de 6 mois avec un stage d'ingénieur. Si ça marche, voilà, vous prenez ça. Vous... Si ça ne marche pas, bah, vous aurez construit une Ferrari sans moteur. Voilà, parce que voilà, vous avez un système d'information, mais si vous n'avez pas la base, ça ne sert à rien. Donc, voilà l'idée. Donc, voilà. Donc, il y a une numérisation. Donc, moi, j'arrivais en 2017 et je devais m'occuper de la numérisation 3D. Et à côté, il y avait des collègues de la fabrique du patrimoine qui ont numérisé en 2D. Donc, vous voyez là, j'ai fait exprès. Donc, vous voyez, hein, on a mis un mois pour déplacer la tapisserie sur des rails pour la voir. Parce qu'il est très, très, très fragile. Et quand vous la voyez, mais c'est là où je me dis c'est dingue de la faire déplacer en Angleterre. Donc, un mois. Donc, on a numérisé. Moi, je l'ai numérisé en 3D. Donc, voilà. Des exemples d'images. Vous m'arrêtez 2 minutes avant parce que je ne maîtrise pas le temps. C'est comme ça. Je sais pas. Donc, voilà. Des exemples de la numérisation multimodale. Vous avez la lumière du jour. Vous avez l'infrarouge. Vous avez... on a des images historiques et on a surtout l'image de l'envers. Et ça, les images qui ont été acquises en 1982. Et c'est ça qui est intéressant parce que les chercheurs, les historiens, ils n'ont pas accès à ça. Il est protégé depuis 1982. Et en fait, comme on dit, en fait, on a accès à la face. La face, on dit la face raconte l'histoire, mais c'est le revers ou l'envers qui dit l'histoire. Pour les chercheurs, c'est ça. Et on n'a pas accès. Et donc, finalement, ben, notre travail constitue finalement... Et on a des calques, pardonnez-moi, j'ai oublié. Parce qu'en 1982, il n'y avait pas de système d'information. Et les restaurateurs et les conservateurs, ils étaient obligés d'avoir des calques et de faire des annotations à la main. Vous imaginez le travail énorme. Donc, voilà. Donc, on a récupéré quand même ces images et il fallait faire des panoramas de calques. Donc, voilà l'idée pour l'accessibilité. Très simple, je ne vais pas aller trop... Oui, bon, c'est simple, c'est classique, hein. Détection de points, maison correspondance, estimation des paramètres, application. Mais j'ai oublié, comme c'est élastique, on a ajouté d'une manière heuristique quelques algorithmes de recalage élastique. Donc voilà l'idée. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est que c'est énorme. Les images sont énormes. Donc il y a des difficultés informatiques pour créer le panorama. Donc là, je vais vous montrer. Ah oui, donc voilà, par exemple. Donc, avec ce travail, on a reconstruit tous les panoramas de toutes les modalités, de l'envers, etc. Donc, vous voyez, et avec ce système, on peut visualiser. Et donc, avec ça, on a résolu, je pense, le problème de l'accessibilité en temps et en espace. Alors, pourquoi ? Parce que, j'ai oublié de le dire, la tapisserie de Bayeux est exposée au musée de Bayeux. Le musée de Bayeux, c'est le deuxième de la Normandie, 400 000 après le Mont-Saint-Michel. Donc, au niveau... économique, c'est très important. Et donc, les chercheurs, pour l'étudier, ils devaient attendre le mois de janvier, fermeture. Donc, il arrive, mais vu la taille importante, ils n'ont accès qu'une partie. Donc, ils ne peuvent pas étudier, ils n'ont pas une vision globale. Ils n'ont pas accès à l'envers. Mais avec ce système, on a formé un panorama, ça veut dire une image énorme. Donc, ils peuvent la visualiser sur leur ordinateur. À distance, un Australien peut travailler, il n'a pas besoin de venir. Il peut regarder l'envers, etc. Donc ça, c'est très... Donc je pense qu'on l'a résolu. Et je suis heureux. Pour moi, c'est une contribution. Pour moi, j'ai fait plein de trucs, mais pour moi, c'est un des trucs qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi important qu'un résultat mathématique, voire plus, parce que cette application effective, elle est utilisée actuellement par les chercheurs et par le restaurateur. Voilà, c'est un exemple intéressant. Ensuite, donc voilà, je prends des exemples. Donc on peut zoomer, on peut naviguer, etc. Ça, ça, comme je l'avais dit, c'est ce qui est important. C'est l'envers. En fait, j'ai oublié de dire, je n'ai pas le temps. À côté du panorama horizontal, on a fait un travail pour aligner toutes les modalités parce qu'il y a un décalage. Donc on a aussi... Un panorama vertical. Et donc, les historiens, ils peuvent en même temps cliquer sur une partie de la tapisserie, regarder l'envers, regarder, etc. Ça leur facilite le travail. Ça ne les remplace pas, mais ça leur facilite le travail. Pour terminer sur ce recalage, on avait également... Ah, voilà. on avait des images de calque et on ne voit pas les couleurs. Dans ces images de calque, il y avait des annotations. Et donc, c'est intéressant pour les conservateurs, finalement, de regarder, enfin, qui vont travailler actuellement, de regarder ce qui a été annoté en 1982. Donc, on a, pareil, un recollage. On a pris les images de calque et n'importe quelle image, on peut la mettre à sa place et visualiser ce qui était annoté. Donc, ça, c'est intéressant. Oui. Oula. Bon, allez, je pars rapidement. Ah, c'est ce que j'ai dit, je ne maîtrise pas le temps. Il me reste combien de temps? Ah, 2 minutes, ouais, voilà, je pars. Et là, et le dernier, en fait, mon titre, c'était ça. Et le dernier, c'est le panorama. C'est pour résoudre le problème de pour les aveugles, etc. En fait, c'est très simple. On a un panorama 2D et on veut construire un panorama 3D. Donc, on commence par numériser quelques scènes, une douzaine de scènes, parce que par des techniques de stéréophotométrie. Mais ça prend beaucoup de temps, on ne peut pas le faire 70. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là où l'IA intervient. J'y crois pas, mais là, j'ai dit bravo à l'étudiante. Enfin, moi, j'ai un truc. J'aime bien l'IA explicatif. Et du coup, les méthodes classiques, j'explique pourquoi. Et donc, finalement, après ces 12 images, on a pris une base d'apprentissage. Et finalement, par des techniques simples, eh ben, on a généré toute la tapisserie. Et on a fait aussi un recalage qui se base sur le recalage de dés. Donc, je vais aller vite fait. Donc, voilà, c'est la technique. Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Numérisation de la tapisserie. Ça, c'est les techniques d'IA. J'aime pas, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas, j'ai jamais... C'est comme ça. Hein. Et tout ça, c'est basé, vous pouvez trouver sur les publications de Marjorie Redon. Alors, voilà un exemple. Alors, je ne sais pas si... C'est une vidéo, je ne sais pas si... Non. Donc, voilà, on peut se balader. Et pour terminer, hein, donc, résumé. On a fait un travail modeste qui est intéressant parce que ça va, c'est ce qu'on appelle ça va. C'est vraiment... l'objectif, c'est un transfert et valorisation vers un milieu socio-économique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, j'aime bien de temps en temps travailler sur du. Mais à côté, moi, je fais partie personnellement beaucoup de diffusion de la culture, puisque je me balade dans les collèges et lycées pour les inciter à vers la science. Et ça, c'est un exemple intéressant. Je leur présente la tapisserie d'Abeilleux, je présente l'imagerie médicale. Moi, c'est un exemple. Donc, vous voyez, c'était en 2018. On a fait le musée virtuel, c'est-à-dire sur des tablettes, les enfants, ils aiment bien bouger, etc. Alors, si vous les amenez à 10 ans, la tapisserie d'Abeilleux, ils vont s'embêter et ils vont s'en aller. Maintenant, si vous mettez des tablettes au musée, ben, ils vont regarder et puis aller voir l'original. Pareil, voilà, ça, c'est pareil pour l'impression. Donc, ce que j'ai pas dit, hein, parce que ce qu'on a fait avec... pourquoi on a fait une construction 3D, c'est-à-dire que c'est pour faciliter une représentation tactile. Parce que vous avez un modèle 3D, vous pouvez le modéliser et imprimer ce que vous voulez. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le bateau de Guillaume. Et ça a donné ça. Et les enfants, ils aiment bien jouer avec ça, avec des puzzles. Donc, voilà, conclusion. C'est un travail artisanal. J'espère qu'on aura, avec mes étudiants, participé modestement à la promotion du musée à la Normandie. Et je vous invite à visiter dans 2 ans, hein, c'est le musée Auvert, cette belle région, pour apprécier ce chef-d'œuvre unique dans le monde.
Est-ce qu'il y a une question ? Dans la salle. Moi, en fait, en termes d'accès, enfin la modélisation qui est proposée de la tapisserie, en termes d'accès, alors peut-être c'est allé trop vite pour moi. Enfin, du coup, où on accède à cette modélisation ?
Vous allez sur le site. Je l'ai pas mis ici, mais parce que j'ai mangé mon temps, quoi, comme on dit.
Après, j'avais une question sur les algos de recalage, mais je pense que vu que vous les aimez pas, je. Je ne vais pas insister.
En fait, si vous allez sur le musée, ouais. Vous avez tout. Hein. J'ai l'adresse. Voilà, vous allez sur le musée de Bayeux.
Okay,
vous regardez la partie exploration en ligne. Okay. Vous pouvez accéder à tout ça. Pas le 3D.
Okay.
Mais peut-être qu'avec reconstruction, ça sera tout. Ils veulent faire une partie pour les malvoyants. Et donc, ils nous ont contactés. Moi, mais il faut du sous hein, pour imprimer un truc.
En 3D.
2000, 3000 euros. Ça, je l'ai, le truc là, je l'ai imprimé de ma poche parce que c'était un truc. Parce que les gens, ils disent à quoi ça sert ça. Mon labo, ils me servent.
Bon.
C'est pas grave, je vais pas critiquer.
Bah, j'ai pas forcément des questions, mais je peux avoir des réponses. Parce que Yvan Keo et Mathieu Pissenberg, ils sont venus de l'IRIT, de l'Institut en recherche en informatique de Toulouse. Alors pour le recalage, c'est des points SIFT.
Oui,
pour voilà, mais c'est un classique de la littérature. Après, sur la, donc, ils ont appris la carte de normal sur une petite zone, sur quelques mètres carrés. Après, ils ont donc extrapolé avec l'IA sur l'entièreté de la tapisserie. Avec des erreurs angulaires qui sont autour de 10 degrés d'angle. Voilà pour la petite histoire. Et pour le modèle 3D, c'est de l'intégration normale. À partir du champ de normal, on peut en déduire une carte de profondeur.
Réponds à une question qu'on ne m'a pas posée. C'est incroyable. Ça s'appelle de l'interpolation. Génial. Eh bien, bien entendu. Mais vous avez accès à tous les trucs.
Oui.
Sur mon truc, j'y mets les références.
Oui.
Et ça a été appliqué à la tapisserie d'Angers. Et Ivan, il est en train de l'appliquer à la truc de Chauvet. Donc voilà. Et je suis heureux de travailler. J'étais heureux de travailler avec Ivan Kiyo. C'est moi qui l'ai mis là-dedans. Parce qu'il a une compétence en stéréophotométrie. Et puis, il est très sympathique.
J'ai juste une question rapide. Est-ce que le revers est renversé ? Est-ce qu'on voit le panorama en recto et par transparence, on peut passer sur le revers ?
On a réalisé un recalage vertical de telle manière à ce que celui qui est intéressé peut regarder le revers, peut regarder la face, etc. sans problème.
Oui, vous avez parlé de l'intérêt de cette reconstitution 3D pour les conservateurs et les restaurateurs. Est-ce que, par exemple, dans le cadre du prêt à l'Angleterre, ça pourrait être utilisé pour le constat d'état ?
Non, d'abord, c'est les panoramas 2D, déjà les panoramas 2D, ils vont être utilisés pour le constat et ils sont utilisés actuellement.
Ils sont utilisés pour ça. Okay.
Ils sont utilisés.